d'accord et restons zen.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Je vous emmerde. Je rentre à ma maison.
Tu me prends le cœur.
Ça, c'est un couteau.
Tu peux lui faire bobo.
Tu aimes les films sur les gladiateurs?
That's what she said.
Yippie-ki-yay, pauvre con.
Considère ça comme un divorce.
Rambo, c'est une pédale.
Oui, cash.
Engagement.
Engagez-vous, qui disait. Et bienvenue dans les bières narratives, un épisode spécial qui s'appelle le 31 bis ou le 32 bis, on ne sait pas encore, et non pas le 32 disque, ça c'est Nokia.
Un épisode en impro total.
Il est en forme.
Le Nounours Comedy Club.
Exactement. Je suis Eric des Arts Narratifs. En face de moi, il y a Greg des The Beer Lantern.
Bonjour.
Et on a aussi à ma gauche, mais en face de moi, Brice alias Gruntozer.
Et bonjour.
Là, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode spécial. Et ouais.
On dirait un youtubeur.
Exactement.
Aujourd'hui, les chers abonnés, une vidéo un peu spéciale où je vais décrire le PQ que j'utilise.
Voilà, c'est unboxing du PQ.
Ah oui. Alors, c'est du Moltenel.
Voilà. Non. Pour une fois, j'ai décidé de faire un truc fou. J'ai regardé les Césars. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Donc,
ils sont beaux.
Alors, c'est un peu cubique, rectangulaire. C'est
d'accord,
un peu étrange,
okay.
Hein, c'est une compression, quoi. Donc, je vais regarder les Césars de cette année 2024, c'est la 49e, je crois, cérémonie César.
Absolument, la 49e, cérémonie César.
Et comme ça ne m'était jamais arrivé, d'habitude, je regarde les cérémonies pour me rajouter à ma liste des films à voir, 2-3 films que j'ai ratés dans l'année, que le pitch me semble intéressant, machin. Et là, pour une fois, je me suis dit, allez, je vais me la jouer, je vais regarder tous ceux qui sont nommés aux meilleurs films au César. D'ailleurs, je vais aussi faire ça pour les Oscars prochainement. Et je vais me faire un avis. Alors, première remarque, c'est qu'en faisant ça, tu as quand même un peu plus d'impatience à vouloir voir une cérémonie. En vrai, tu te dis pas, oh putain, ça va être long, ça va être chiant. Tu te dis, attends, je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils vont dire ou faire à propos de ce film-là, ce qui va ressortir à cette cérémonie. Donc, c'est plutôt marrant. C'est beaucoup plus intéressant de voir les films avant qu'après, en fait. Donc, même si c'est aussi fait pour ajouter de la visibilité au film. Et en plus de ça, comme je ne suis pas aussi spécialiste que les critiques ciné, que les youtubeurs ciné, que Tata Gisèle au ciné, je vais vous...
c'est très bizarre parce que j'ai une tante qui s'appelle Gisèle, du coup...
Et moi non, c'est ça encore plus bizarre.
Je viens d'imaginer ma tante au ciné.
Voilà. Donc du coup, on va essayer de parler un peu des Césars de cette année, de 2024, en buvant une bière quand même, parce que
ça s'appelle pas les bières.
Et oui, on a une bière assortie.
On parle de cinéma, donc ça s'appelle, cette bière s'appelle...
Cinéma, tcha-tcha.
Tu regardes Canal+. Hein.
C'est oui. Cette bière, c'est... oui, non, je regardais, mais j'avais un peu la tremblote au bout d'un moment. Alors, on va déguster la Golden Age of Cinema de la brasserie allemande Frau Gruber, dont je vais vous parler juste après.
Frau Gruber.
Oui, une bière qui nous a été gentiment offerte... par Paul, l'ex-gérant du Beer District, puisqu'entre temps il est parti, c'est devenu le Flashback Café. Oui, cette bière date un petit peu.
Tout à fait, comme d'habitude.
Excusez-moi, et c'est une IPA, canette de 44 centilitres. Oula, j'ai failli niquer le podcast en la tournant. Je sais pas, elle a 6,5.
C'est magnifique.
Voilà, donc on va déguster cette bière en parlant de cinéma et des Césars 2024.
Donc,
est-ce que Brice, tu es prêt?
Mais moi je suis toujours prêt, monsieur.
On va d'abord parler des 5 films qui sont nommés.
Alors, les 5 nominations au meilleur film.
Eh ben non, au meilleur film étranger.
Meilleur film étranger, évidemment. Monsieur fait des blagues, je savais que tu allais me la faire à l'envers.
On va être quand même assez simple. Comme on n'est pas des vrais spécialistes ciné, enfin pas à ce point-là, on va zapper tout ce qui est documentaire, court-métrage et tout ça. Non pas parce que ça ne mériterait pas d'en parler, c'est juste qu'on ne saurait pas en parler. Donc on va éviter. Hein, on va éviter. Est-ce que d'habitude ça nous gêne de ne pas savoir de quoi ? Non, bref. Donc on va commencer par la catégorie meilleur film étranger, où était nommé le film de Christopher Nolan, Oppenheimer.
Nous avions aussi un film de Wim Wenders, Perfect Days.
Un film de Aki Kaurismäki, Les Feuilles Mortes.
Un film de Marco Bellocchio, L'Enlèvement.
Et enfin, le film de Monia Choukri, Simple comme Sylvain. Donc, parmi ces cinq films, est-ce que vous en avez vu un?
Alors, personnellement, j'ai vu Oppenheimer.
Ah oui, Oppenheimer, je suis con, oui, j'ai vu Oppenheimer.
Ah, oui, oui, le mec oui. qui ne suit pas, en fait.
Voilà. Ah, oui,
hein. Jean-Michel, je ne suis
photos,
pas là.
Je
faisais des photos.
Jean-Michel, je ne suis pas là. Donc, tu as vu Oppenheimer, tu as aimé?
J'ai kiffé, franchement, vraiment excellent.
Moi aussi, je pense qu'il va d'ailleurs faire une sacrée razzia.
Ouais, il y a des chances.
Oscar. Et Christopher Nolan, d'ailleurs, a eu un César d'honneur.
Pour avoir écouté Paul Mirabel.
Exactement, pendant tout le... Franchement, bravo. Donc, ce n'est pas Oppenheimer qui a gagné. Ce n'est pas non plus Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki, le film finlandais. Ce n'est pas L'Enlèvement de Marco Bellocchio, le film italien. Ce n'est pas Perfect Days de Wim Wenders, ce film allemand et un peu japonais. Donc, tu peux nous rappeler le pitch, Brice ?
Ah oui, alors tout à fait, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, en fait, Wim Wenders a été approché par la municipalité de Tokyo qui voulait que Wim Wenders leur réalise un film documentaire sur les toilettes publiques du quartier de Shibuya. Le cinéaste leur a fait non, moi je veux faire un film. Du coup, il a fait un film qui suit l'histoire d'un employé quinquagénaire des toilettes publiques de Tokyo.
Voilà, c'était pour garder une réputation
de 4,5.
Les cérémonies sont souvent pour des films chiants.
C'est
au sens littéral. Je ne l'ai pas vu, donc je vais pas me prononcer.
Non, mais... j'ai vu les toilettes du Beer Academy. Et apparemment, c'est 4,5 sur 5.
4,5 sur 5 sur Toilette Advisor.
Et il y a nos photos dedans.
oui.
C'est ça le pire. Non, c'est le film qui a reçu le César du meilleur film étranger. Je n'ouvre pas d'enveloppe, on ne va pas le faire comme ça. C'est passé hier ou avant-hier. C'est Simple comme Sylvain de Monia Choukri, un film canadien, enfin franco-canadien.
Donc c'est l'histoire de Sophia.
Tout à fait.
Une professeure d'université qui vit confortablement et qui a une relation stable mais peu excitante avec son compagnon Xavier depuis une dizaine d'années et qui voit la vie bouleversée quand elle rencontre Sylvain, un ouvrier du bâtiment.
Ah, le plombier dans les films de boule.
Qui est engagé pour rénover leur chalet, justement. Le plombier dans les films de boule, absolument. Voilà.
Donc, c'est Simple comme Sylvain qui a reçu le César du meilleur film étranger. Le piquant, donc, à Christopher Nolan, qui est donc venu d'Angleterre pour ça. Hein.
Oh là là.
Pas pour ça, il a eu son César d'honneur quand même, pas venu pour rien.
Donc Nolan a perdu face à l'histoire d'une meuf qui trompe son mec avec le plombier.
Voilà.
Ok, très bien.
Nous sommes au César, je recadrerai un peu le truc. Hein.
Dire que t'es Christopher Nolan, tu dis putain, je me suis fait chier à faire exprès de faire une explosion nucléaire, mais sans effets spéciaux, à recruter des acteurs de dingue, à les maquiller comme Robert Duvall.
Meilleure caméra IMAX,
le son et tout. Et là, t'as Josiane qui trompe son mec parce qu'elle se fait chier au pieu avec lui, avec le plombier. Et toi, tu l'as là, tu fais ok, bravo. Et j'ai écouté Paul Mirabel pour ça, la putain de sa race. Génial.
Non, pire, un traducteur traduisant du Paul Mirabel.
Les
jeux de mots de Paul Mirabel traduits en anglais, je suis pas sûr. Ouf,
mais c'est devenu tellement malaisant en plus les cérémonies.
Donc, dans tous les cas, je dois avouer que le bon moment de cette remise de prix, ça a été quand même Monia Choukri qui s'excuse auprès de Monsieur Nolan. Oh, désolé, Monsieur Nolan, sorry, je pensais pas, désolé.
Pardon.
On va passer à l'autre rubrique, la rubrique meilleur premier film.
Meilleur premier film.
Oh,
nous avons Vermine de Sébastien Vanitschek.
Ça, je crois que tu l'as vu, toi.
Je l'ai vu.
Alors, de quoi ça parle?
Eh bien, ça parle d'une histoire d'araignée. Donc, ça se passe un jeune de quartier qui achète une araignée chez un espèce de dealer d'animaux chelous, qui la ramène chez lui. Sauf qu'en fait, c'est une araignée un petit peu spéciale qui vient d'un désert quelconque et qui pond ses œufs dans les corps de ses victimes.
D'accord, c'est alien, quoi.
Voilà, un petit peu ça. Sauf qu'il y a une dizaine d'araignées qui sortent de chaque corps et les araignées grossissent à chaque génération. C'est un petit film d'horreur. Ça se regarde bien. Franchement, c'est fun.
Donc, il y a Vermine, il y a le de Sébastien Vanitschek, il y a le Ravissement de Iris Kaltenbach, que je n'ai pas vu.
Vincent doit mourir de Stephen Castan.
Alors, lui, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais le pitch me plaît énormément. Est-ce que tu peux l'avoir?
Je peux l'avoir, bien évidemment. Donc, on suit l'histoire de Vincent, dont la vie est tranquille, mais sa vie bascule lorsqu'il devient la cible d'attaques meurtrières sans motif apparent. Donc il est contraint de fuir et de réinventer sa vie, et à mesure que les agressions s'intensifient, cet homme tout à fait ordinaire est plongé dans une lutte pour sa survie.
Le pitch de base, c'est que d'un coup, il y a une sorte de... Enfin, ça ressemble à un truc assimilé à un virus. En gros, quand quelqu'un voit ce gars-là, il a envie de le tuer. Juste le voir.
C'est beau.
Et ce pitch-là, je ne sais pas comment c'est tourné, je ne sais pas comment c'est... Mais rien que ça m'intrigue fortement. Donc il faut que je le voie. Donc, il n'a pas eu le César du meilleur film, du meilleur premier film, pardon. Spoiler alerte. Par contre, j'ai quand même envie de bien le voir et je pense qu'il mérite d'être vu. Avant-dernier film, avant de vous dire qui a eu le César du meilleur premier film,
c'est... Avant de vous dire au revoir...
C'est Bernadette de Léa Doménac.
L'histoire d'une femme qui aime bien son sac à main.
Voilà, exactement. Une sorte de biopic humoristique.
Pour finir, nous avons Les Chiens de la Casse.
Alors, de Jean-Baptiste Durand.
De Jean-Baptiste Durand, qui est donc celui qui a eu le César.
Du meilleur premier film. Je l'ai vu, parce qu'il était aussi nommé comme dans la rubrique meilleur film. Et je me suis limité au meilleur film en termes de visionnage. Chien de la Casse, comment dire ? Sur le papier, c'est exactement ce qu'on attend du film français. C'est l'histoire de mecs dans une... Ou, alors, c'est pas une banlieue paumée, c'est aussi dans un village, qui zone, et à qui il arrive un gros événement. Voilà.
Ok.
Ah oui, tout à fait. Il y a Elsa, une jeune femme dont Dog tombe amoureux. Voilà. Oh là là, mon Dieu.
Non, mais...
J'aime bien le nom des héros, Dog et Miralles.
Tout à
fait. Miralles, Miralles, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé.
Voilà. <Hey. rire> Donc, il a eu le meilleur point de vue. Alors, honnêtement, je l'ai regardé, il est assez court, fait 1h30, 1h40. Et l'ambiance...
93 minutes.
93 minutes, ben 1h33, voilà. l'ambiance est quand même sympathique. C'est grosso modo deux potes qui zonent un peu dans un village pas loin de Montpellier ou d'Occitanie, quoi. Et qui zonent dans un village, quoi. Donc ils sont à la fois très gentils avec les petites mémés du coin, parce qu'ils sont, quand ils sont grandis dans ce village où ils ont vécu plus longtemps. Et à côté de ça, c'est quand même des racailles malgré tout. Qui peuvent un peu dealer de drogue, qui passent leur temps sur la PlayStation, enfin bref. Et à un moment donné, il va y avoir un élément perturbateur, une nana qui arrive de la ville, et à côté de ça, le film se déroule sur le temps d'un été, où le personnage de Miralles, justement, qui débite énormément de grandes paroles, de grandes phrases, etc. Ça, c'est Dog.
Ça c'est Dog.
Anthony Bajon, c'est
Putain,
Dog.
On dirait un bébé, le mec.
Il a grandi depuis.
Là, c'était en 2018.
Il a grandi un peu.
Ah ouais, d'accord. Okay.
De 5 ans, de plus, quoi.
Oui.
Et donc Dog, qui tombe amoureux de Lana qui arrive, forcément l'amitié avec Miralles va être un peu... alors qu'il avait une amitié un peu soumise à Miralles, ça part un peu en live. Voilà. Mais par contre, honnêtement, le pitch que je fais ne fait pas honneur au film, parce qu'au final, ne serait-ce que les diatribes de Miralles, interprétées par Raphaël Quénard...
Tout à fait.
Et la finalité... de ce long métrage rendre l'expérience plutôt sympa, mais ça reste un film typique, film français. Il faut avoir envie de regarder ça à la base, mais franchement ça passe bien.
Ouais.
Alors on va passer à comme j'ai dit, je zappe les courts métrages, les films d'animation, machin. Non pas que j'aime pas ça, mais comme je les ai pas vus et que j'y connais pas grand chose, je vais pas trop en parler. On va passer aux meilleurs effets visuels. Meilleurs effets visuels, nous avions Léo Evald pour Vermine.
Olivier Coué, non, pas le même, pour les Trois Mousquetaires et les Trois Mousquetaires.
Voilà, D'Artagnan et Milady. Il y avait Liz Fisher et Cédric Fayolle pour La Montagne, un film dont je n'ai absolument pas entendu parler. Donc, celui-là.
Moi non plus. Thomas Duval pour Acide.
Oui, le film où il y a de la pluie acide qui tue les gens. Et Cyril Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autré pour Le Règne Animal. Et c'est évidemment Le Règne Animal qui a reçu le César des meilleurs effets visuels.
Un de ceux qui m'intéresse, ouais.
Le Règne Animal, franchement, très bien. On y reviendra un peu plus tard. Parce qu'on va parler des meilleurs décors maintenant. Et dans les meilleurs décors, il y a
Julien Lemaire
pour
Le règne animal.
J'ai dit qu'on en reparlerait.
Ben voilà.
Il y a Thomas Bakeny pour La patiente d'Odin Bouffant, qui est quand même le film que la France a voulu proposer aux Oscars comme meilleur film étranger.
Ok. Ah,
et qu'ils n'ont pas voulu pousser Anatomie d'une chute parce que il y a eu un discours qui a dérangé le gouvernement à Cannes.
Un gros chien à Manu.
Et tout ça, ça a fait que La passion d'Odin Bouffant n'a pas passé les sélections, comme dirait l'autre, hein, et n'a pas été nommé aux Oscars du meilleur film étranger. Mais bon, voilà, il est quand même pour meilleur décor nommé pour Thomas Bakeny.
Ensuite, nous avons meilleur décor pour Angelo Zamparotti pour Jeanne Dubarry.
Oui, le film avec,
Johnny Depp et j'ai oublié le nom de la réalisatrice.
Maïwenn,
voilà, c'est ça, merci.
Emmanuel Duplay pour Anatomie d'une chute. Qui avait fait une razzia à Cannes. Je crois que bien parti hein, pour aussi c'est un peu quelque chose d'Oscar.
Et Stéphane Taillasson pour Les Trois Mousquetaires et Les Trois Mousquetaires.
Oui, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, Les Trois Mousquetaires.
Milady.
Ce n'est, pour tout dire, c'est que le premier César que va avoir ce film-là. Pour l'instant, il y en aura d'autres. Meilleur costume maintenant. Meilleur costume, nous avions au choix.
Nous avions Thierry Delettre pour Les Trois Mousquetaires et Les Trois Mousquetaires.
Qui ne fait pas partie de la brasserie de lettres en région parisienne.
Une connerie, Les Trois Mousquetaires n'a eu que les meilleurs...
Oui, il n'en a eu qu'un.
Il n'en a eu qu'un, voilà. Pardon, donc on disait les meilleurs costumes. C'est les meilleurs costumes ? Oui, les meilleurs costumes.
Oui, les meilleurs costumes.
Thierry Delettre pour Trois Mousquetaires d'Artagnan et Trois Mousquetaires Milady. On a eu Tranouyenke pour La Passion d'Odin Bouffant.
J'ai perdu ma ligne.
Il y a eu Pascaline.
De Luc Besson, du Bergerie.
Il y a eu Pascaline Chavanne.
Pascaline Chavanne pour Mon Crime.
Il y a eu Jürgen Döring pour Jeanne Dubarry.
Pascaline Chavanne.
Et Ariane Dora pour Le Règne Animal.
Oui, qui emporte le César du meilleur costume.
Encore un.
Okay.
Meilleur montage maintenant. Meilleur montage, nous avons Lilian Corbeil pour.
Lilian Corbeil pour Le Règne Animal.
Nous avons Yann Dedé pour...
Le procès Goldman.
Il n'a pas de lunettes 3D. Nous avons ensuite Valérie Loiseleux pour...
Little Girl Blue.
Francis Vezin pour...
Je verrai toujours vos visages.
Et quand tu connais le pitch du film, tu ne le fais pas comme ça normalement.
Si, clairement.
Et Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute.
C'est pas Anatomie d'une touche.
Non.
Mais si, une touche et puis après tu chutes.
Ah, voilà.
Pour tout dire, Little Girl Blue, je ne l'ai pas vu. C'était, si j'ai bien suivi, c'est un peu une performance d'actrice de Marion Cotillard pour interpréter quelqu'un.
J'espère qu'elle ne meurt pas dans le film.
Pas dans
le
Nolan, quoi, du coup.
Marion arrête les scènes de mort.
Vous avez, qui aura donc gagné le César du meilleur montage, Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute. Le montage d'Anatomie d'une chute, il l'a dit pendant la cérémonie, 10 mois. 10 mois pour monter un film.
C'est beaucoup.
Où, honnêtement, c'est ça reste un quasi huis clos. Quoi. Enfin, un double huis clos. Hein, ou un huis clos dans le lieu du crime, ou un huis clos dans le tribunal. 10 mois.
Il y a des problèmes de décision, non ?
Ou alors une volonté absolue de faire. Quand on voit qu'un. Oui, peut-être que le mec est seul, alors que dans d'autres productions, par exemple américaines, où on a plus l'habitude des délais, ou de la rentabilité, forcément. Mmh. Normalement, un film style Marvel, c'est 10 mois, effets spéciaux compris.
Ah oui, tout ça, c'est très très long.
Par exemple. On va passer à la meilleure photographie.
La meilleure photographie. Nous avons Nicolas Bolduc pour faire le petit nœud avec Les Trois Mousquetaires ou Les Trois Mousquetaires.
Fatigue. Je me sens inutile en ce podcast aujourd'hui.
Non, tu subis.
J'écoute leurs conneries.
Tu peux participer, tu peux dire des conneries avec nous.
Oui, mais il va plus vite que moi, lui.
On avait Patrick Guérin-Guéli. On dirait Guéli-Guéli, on dirait.
On l'appelle Monsieur Chatouille dans le jargon, mais bon.
Pour Le Procès Goldman.
Jonathan Riquebourg pour La Passion de Dodin Bouffant.
Simon Beaufils pour Anatomie d'une chute.
Simon Beaufils.
Et David Caillé pour Le Règne Animal.
Qui l'emporte, meilleure photographie pour Le Règne Animal.
D'accord, le lait n'a pas caillé.
Ça commence à être... On voit quand même que Le Règne Animal a pris une bonne partie parce que
le
déjà...
règne animal, oui, il a fait un bon score au
Est-ce
final.
Est-ce que les gens se transforment un peu comme dans la mouche ou
c'est une mutation en fait, c'est-à-dire que les leur... c'est entre la mouche et l'animal.
Ouais.
Je crois que c'est le meilleur,
oh,
c'est
là, le comparaison.
Meilleur moyen pour moi de te le vendre.
Mais j'aime beaucoup là, m'animal entre la mouche et m'animal.
En français et en beaucoup plus mieux fait. Mais voilà.
D'accord. Mais c'est incroyable.
Entre la mouche et l'animal. Je crois que je n'étais pas prêt pour cette comparaison.
Je n'étais absolument pas prêt. Je veux voir une scène de ça.
Eh bien, on va passer au meilleur son. Est-ce que tu es prêt ?
Meilleur son, nous avons David Ritt, Gwenolé Le Borgne, ça tombe bien. Et... Olivier Touche, je l'avais. Cyril Holtz et Niels Barletta pour Les Trois Mousquetaires et Les Trois Mousquetaires.
Trois Mousquetaires d'Artagnan et Trois Mousquetaires Milady. C'est pour ça qu'il répète à chaque fois Trois Mousquetaires. Il ne va pas au bout des phrases, c'est comme ça.
Non, je ne vais pas au bout des phrases.
Au meilleur son, vous avez été nommé aussi Erwan Kerzané, Sylvain Malbrand et Olivier Guillaume pour Le Procès Goldman.
Et ensuite, Rémi Daru, Guadalupe Cassius, Loïc Priant et Marc Douane pour Je verrai toujours vos visages.
Et... Nous avons aussi, j'étais pas prêt à cette nouvelle prononciation de « Je verrai toujours vos visages ».
Soyez témoins.
Julien Sicard, Fanny Martin, Jeanne Deplanque et Olivier Guenard, pour Anatomie d'une chute. Et le gagnant est...
Et le gagnant est Fabrice Osinski, Raphaël Soyer, Mathieu Fichet, Niels Barletta, encore lui, pour Le Règne Animal.
Wouh, encore un pour Le Règne Animal, youhou. Meilleure musique originale. Après le son, il y a la musique.
Nous avions Guillaume Roussel pour Les Trois Mousquetaires et Les Trois Mousquetaires.
Voilà, qui, c'était un peu du Hans Zimmer-like. Hein, donc, oui. Nous avions Vitalik pour Disco Boy, que je n'ai pas
Vitalik,
vu.
Sans déconner.
Ouais.
Merde.
Vitalik, c'est un médoc, ça. Si je vais bien, c'est Vitalik.
Delphine Malocena pour Chien de la Casse.
Chien de la Casse, il faudrait... Alors, je vais donner une mission à Greg pour Chien de la Casse. C'est d'aller nous chercher la Baba la Malabar. Un extrait, si tu trouves ça.
Ah, la Baba la Malabar ? Ouais. Oh, classe.
La Baba la Malabar, okay.
Voilà. Donc c'est pour la meilleure musique originale que je dis ça. On avait Gabriel Yared pour L'Amour et les Forêts. Et le gagnant est...
Andrea Laszlo de Simone pour Le Règne Animal.
Et ouais, Le Règne Animal, il surfe. Hein. Il est...
Je crois que je l'ai.
Il est pas mal, il est pas mal.
Alors, je crois que j'ai l'extrait, attendez.
L'extrait de Chien de la Casse.
Bala Papa et Ababa. Bala babar et bala papa aussi, on partage. C'est important de partager. Voilà. Allez, pas toucher, assis. C'est bien. Tu veux jeter un bon? Pas toucher, malabar.
Allez, malabar.
Allez, écoute,
c'est bon. Bonne bière.
On va chercher, hein.
On va chercher, hein.
Allez, chope. Chope. Elle est grave.
Non, attends, là, tu manques de respect.
Il est trop bête.
C'est fini, tu nous plais.
Je ne manque pas de respect, il est bête.
Moi, je sais que t'es intelligent. Moi, je sais, mais elle est méchante parce qu'elle compense. Parce que ça va pas bien à l'intérieur. Ça doit remuer, ça doit être très triste.
Les répliques de Raphaël Quenard dans ce film sont énormes.
Ça passe à l'intérieur et elle va s'excuser maintenant. Tu l'as blessée, là. Excuse-toi.
Non, je m'excuse pas un chien.
Ok, il va attaquer.
Donc, non, c'est bon, c'est bon.
Voilà.
Viens à la barre. Mais plus plate, excuse. Voilà. T'es moche et t'es bête.
Eh bien, reste pas avec la méchante. La balle à babar. La baba la malabar. La balle à babar. La baba la malabar. La balle à babar.
Et toi, t'as le droit de te moquer de lui et pas moi.
Alors moi, je l'embête pas, je l'éduque, d'accord. Et moi, c'est mon chien, donc c'est bienveillant. La babal à ma la bas.
Voilà, c'était la babal à ma la barre.
Très bien,
je la casse. Mais ça vous montre un peu la façon de parler, le style de dialogue du film, quand même. Et où en étions-nous? Musique originale, c'est un animal. Je suis perdu.
Meilleure musique originale, nous avons meilleur scénario original.
Ah oui, c'est ça, nous avons le meilleur scénario original, tout à fait. Et donc, est nommé
Thomas Caillet et Pauline Munier pour Le Règne Animal.
Oui, alors pour tout dire, le niveau de nomination, Le Règne Animal en a eu 12. Hein.
Oui.
Anatomie d'une chute 11, Je verrai toujours au visage 9, Le Procès Goldman 8, Chien de la Casse 7. C'est assez facile d'en choper quand t'es nommé partout. Il faut pas. Hein, les Trois Mousquetaires, ils en ont. Alors, par contre, les Trois Mousquetaires, ils ont été nommés 6 fois, ils en ont eu qu'un. Hein. Après, les autres ont entre 2 et 4 nominations et n'ont pas chopé grand chose non plus. Donc, nous étions au meilleur scénario. Donc, Thomas Cailler et Pauline Meunier au Règne Animal. Nathalie Herzberg et Cédric Kahn pour Le Procès Goldman.
Kahn! Jeanne Herry pour toujours vos visages.
J'ai moué, j'ai été absenté. Qu'est-ce qui vient de se passer là?
Je crie Cannes.
Et non pas le festival de Cannes, hein, bien sûr.
Ah oui. Oh, ce serait génial comme vision. Le festival de Cannes.
Excusez-moi pour ce.
Du coup, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages.
Ah, il a pas fait une voix bizarre. Non. Jean-Baptiste Durand pour Chien de la casse.
Et Justine Trier et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute.
Qui a gagné le...
C'est oh mon Dieu,
étonnant, c'est étonnant. Hey. Et là, on attaque, allez, on va dire les plus gros prix, avec comme meilleure révélation masculine.
Milo Machado Graner pour son rôle de Daniel Maleski dans Anatomie d'une chute.
Un gamin qui jouait super bien. Il jouait un gamin aveugle dans le film.
Ah ouais.
C'est pas évident parce que les gamins ça joue très mal.
Mais alors, très honnêtement, que ça soit lui ou Paul Kircher dans le rôle d'Emile Marendazé dans Le Règne Animal,
ouais.
C'est deux gamins ou ados qui jouent super parfaitement. Ah, c'est incroyable. D'ailleurs, Paul Kircher est nommé meilleure révélation masculine aussi.
Parce que Vincent dans Les Filles d'à côté, il jouait très mal. Et Wendy, je vous en parle même pas.
J'étais allé voir ce qu'elle était allée faire Milo Machado, il a aussi joué dans En attendant Beaujangle en 2021.
Ah ouais,
ouais. Le rôle d'Alexandre, mais je n'ai pas vu le film donc je ne saurais pas dire. Mais bon, bref. Paul Kircher pour son rôle.
Non, c'est je viens de le dire ça.
Ah, tu as sauté Samuel Kircher.
Parce que je parlais des deux enfants que je connais et lui, je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas en parler.
Certes. Du coup, Julien Frison pour son rôle de Lucas Savelli dans Le Théorème de Marguerite.
Et Raphaël Quenard pour son rôle de Miralles dans Chien de la casse.
Ah, donc la baba, la malabar, il a eu l'Oscar.
Il a eu le César. Pardon. Le César de meilleure révélation masculine, sachant que Raphaël Quenard, on le verra plus loin, était aussi nommé comme meilleur pour le César de meilleur acteur pour son rôle dans Yannick.
Ah, j'en suis pas d'accord. Avec ça, Yannick.
Ouais. Qui est très bien, Yannick Dupieux, franchement.
Mais du coup, pourquoi meilleure révélation si c'est pas une révélation vu qu'il a déjà fait des films?
Mais c'est pour ça qu'il a pas eu l'autre, parce que normalement, tu peux pas avoir les deux. S'il y a des lois internes dans leur truc. Comme j'ai dit, on est dans un podcast qui ne s'y connaît pas.
Je posais une question. Hein,
je viens de dire des trucs. Mais... d'enfants qui jouaient mal. Je me souviens de... Oui, certes.
Les Goonies.
Il y avait une série qui s'appelait... Il y avait une production qui s'appelait Extra Zigda.
Mais qu'est-ce que c'est?
Ah, c'était terrible. C'était une fille au père extraterrestre de 522 ans qui venait en gros explorer en gros, l'humanité. Et du coup, elle faisait fille au père pour des enfants dans une famille, tu vois. Et genre, c'était censé t'émouvoir où tu avais le père qui était... La mère était morte et donc le père élevait seul ses enfants. Et tu avais donc la petite fille, le garçon et la fille, ils jouaient mais tellement mal. Et je me souviens que rien que le prénom faisait que tu pouvais pas jouer bien. Il s'appelait Gédéon, je crois, le Milo. Et déjà, rien que le nom, tu fais « What ?» Mais c'est là où je rigole, c'est que Jean-François Pori, tu vois, il a dit « Bon, faut que je trouve le nom de la planète d'où venait Zigda, tu vois. » Et donc, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a dit « Bon, je roule en quoi en ce moment ?» Ah bah ouais. Elle vient de la planète Xantia. G-Z-A-N-T-I-A. Et on a tous compris que le mec, il avait une Citroën. Quoi. Donc, joli. Extra Zigda, rien à voir avec Oscar. Mais si vous voulez avoir le fait, l'inverse des gens qui jouent bien dans César, regardez un extrait d'Extra Zigda sur YouTube.
Ça vaut son pesant d'or. Jean-François Pori, son vrai nom, c'est Jean-Luc Azoulay. Hein. C'est le A de
AB. C'est Jean-Luc Azoulay, effectivement. Oui, tu as raison.
C'est le A de AB.
Trouvez ça, moi, extra zigzag.
Mon Dieu. On va passer à la meilleure révélation féminine.
Virginie Théron, extra zigzag.
Les cinq nommés pour meilleure révélation féminine, je n'ai vu aucun film.
Oh.
Aucun des cinq.
Ah bah oui, effectivement.
Donc, il y avait Rebecca Marder pour son rôle de Madeleine Pastor dans De Grandes Espérances.
Mon Dieu.
Suzanne Joanet pour son rôle de Sophie Vasseur dans La Voix Royale.
Kim Higelin pour son rôle de Vanessa Springora dans Le Consentement.
Céleste Brunkel pour son rôle de Rosa Gravier dans La fille de son père. Le contraire m'aurait été
qui a
étonné.
Joué un très beau drame avec Jean Alési.
Et pour info, Kim Higelin, ce n'est pas la fille de Jacques Higelin, c'est sa nièce.
Mais d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de fille de...
Non, c'est pas la... C'est la petite fille de... Non, c'est la fille... Ah, oh, j'ai perdu fille. C'est la nièce d'Arthur H, je disais Higelin. Donc c'est la nièce des enfants, donc c'est la petite nièce. De...
Mais en parlant de célébrité, Eric, n'as-tu pas été à l'école avec quelqu'un qui est marié avec quelqu'un de connu? Pas du tout.
Ça, je sais pas.
Il veut pas le dire, il est timide. Mais en fait, il était avec Extra Zigda.
Voilà, c'est ça. Il y avait on a dit nous cette bonne carte, tu as dit, et la gagnante c'est Ella Rumpf pour son rôle de Marguerite Hoffman dans La théorème de Marguerite.
Le théorème de Marguerite, il y a voilà. Une vache dans l'histoire ou...
je sais c'est pas c'est non. La vache et le prisonnier, je ne sais pas. Alors après arrive la catégorie que celle qui a gagné a qualifié de hold up. Alors nous avons pour la meilleure actrice dans un second rôle, vous avez le choix entre... Alors, on va commencer par Galatea Bellucci, celle qu'on a entendu parler au chien, pour son rôle d'Elsa dans Chaîne de la Casse.
Ok.
Et effectivement, ensuite, nous avons Miu Miu.
Oui, pour son rôle de Sabine dans Je verrai toujours vos visages.
Miu Miu.
Ouais.
Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de Miu Miu.
Il y avait Élodie Bouchez.
Dans le rôle de Judith.
Putain, elle aussi.
Dans
quel film ?
Je verrai toujours vos visages.
Je l'avais oublié, Louis Duchesne aussi.
Ensuite, il y a Leïla Bekti pour son rôle de Nawel dans
Je verrai toujours vos visages.
Et Adèle Exarchopoulos pour son rôle de Chloé Delarme dans
Je verrai toujours vos visages.
Sur 5 nommés, il n'y en a qu'un du même film, hein, quand même.
Comme quoi, ça joue bien dans ce film, en fait.
Alors, honnêtement, j'en parlerai un peu plus tard quand on détaillera un peu plus les meilleurs films. Mais c'est Adèle Exarchopoulos qui a eu ce César de meilleure actrice dans un second rôle, sachant qu'elle n'a pas été nommée pour un autre film, elle joue aussi dans Le règne animal, pour info.
Oui.
Dans un second rôle.
Okay. Élodie Boucher, ce qui a 50 ans, dis donc.
Et oui.
Ah ouais, le temps passe vite.
Et mieux d'en avoir.
74.
Voilà.
Ça fait beaucoup là, non ?
Mais ouais. Meilleur acteur dans un second rôle.
Nous avons Antoine Reinhardt pour son rôle de l'avocat général dans Anatomie d'une chute.
Qui n'a rien à voir avec Django.
Et honnêtement, ce mec-là, dans Anatomie d'une chute, c'est donc l'avocat général, c'est celui qui accuse.
Ouais.
Ah, il est génial. Ah, t'as envie de le taper, en fait. Donc, il fait très bien son rôle, en vrai. On a Pio Marmaille dans son rôle de Paul Rivière dans Yannick.
Arthur Harari pour son rôle de maître Georges Kiegeman dans Le procès Coleman.
Anthony Bajon pour son rôle de Dog dans Chaîne de la Casse, celui qui avait l'air tout jeune tout à l'heure.
Oh, encore un. Et Swan Arlo pour son rôle de Maître Vincent Renzi dans Anatomie d'une chute.
Et c'est
Maître Vincent Renzi.
Et c'est Swan Arlo qui a gagné le César. Sachant qu'il n'était pas à la cérémonie, par contre. Il n'est pas venu chercher lui-même.
Oh, c'est moche.
Et là, on va attaquer les quatre dernières... catégorie.
Et après, je vous parlais de Frau Gruber. Quand
c'est vrai.
Frau Gruber.
Et on va un peu boire de bière aussi.
Et oui.
Ben, si tu veux, on va garder un peu de suspense. On va
ah, ben, je peux vous parler de Frau Gruber.
Parle-nous de Frau Gruber.
Qui n'a rien à voir avec Hans Gruber, le méchant de Die Hard, ou son frère dans Die Hard 3, dont j'ai oublié le nom. C'est quoi le prénom de Jeremy Irons dans Die Hard 3? C'est Simon Gruber.
Simon, oui.
Simon Says.
Simon Says.
Oui, donc j'y vais. Donc on était sur la Golden Age of Cinema, une IPA à 4,5% de chez nos amis allemands de Frau Gruber. Oui, on peut dire nos amis allemands maintenant. Ça fait longtemps. Donc une brasserie qui a été fondée en hiver 2016 par Enzo Frauscher et Matthias Gruber. Désolé les gars, hein, si je... Du coup, je pense que la fusion Frau Gruber vient de là, hein, parce que FRAU sont les quatre premières lettres de Enzo et Gruber, les trois, enfin, le nom de famille complet de Mathias. Donc voilà, ils ont brassé donc leur première bière sous le nom de Gypsy Brewer. Donc en fait, ils étaient des brasseurs Gypsy, on en avait évoqué dans plusieurs épisodes d'ailleurs, notamment. Voilà. Voilà, c'est une brasserie allemande qui s'exporte pas mal hein, depuis quelques années. Ils sont dans la ville d'Augsbourg, si j'ai bien suivi, parce que je suis sur la traduction littérale de Google, hein, de leur bio là. C'est un épisode un petit peu décousu, je ne vous le cache pas. Voilà, donc c'est une brasserie qu'on trouve assez facilement maintenant en France, que je vends d'ailleurs notamment de temps en temps moi aussi. Et celle-ci, donc, qui nous a été donnée par notre collègue Paul. Voilà, et Frankenbauer fait quand même pas mal de bières différentes. Alors, c'est de la canne, hein, essentiellement. Et, alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont à l'encontre de la loi de pureté allemande. Oui. Ce qui est plutôt pas mal, parce que si dans l'épisode précédent, je vous parlais du marché italien qui était très classique, les Allemands, c'est encore pire, parce que eux, ils se soumettent à cette loi pour la plupart, parce qu'ils veulent pas perdre leur public qui est très attaché aux valeurs historiques de leur bière. Mais le marché évolue, il faut évoluer avec son temps, il est un petit peu temps de donner un petit peu de couleur à ça, parce que quand vous allez à Berlin, il y a des couleurs de partout, mais ça refuse de prendre de la bière... un petit peu chiadé. Donc là, je vous donne un exemple de ce que j'ai là, par exemple, sur leur site. D'ailleurs, il y en a que j'ai bien envie d'en prendre si ça m'est proposé. Il y a une Imperial Pastry Stout faite avec des macarons, une autre faite avec de la vanille dans des barriques de bourbon, une autre faite avec de la vanille et des muffins. On a de l'IPA, de la Pale Ale, effectivement, de la Triple India Pale Ale, de la Triple IPA. On a de la bière faite avec du strudel, on a bière faite avec du banana split qui goûte le banana split, de la bière qui goûte la forêt noire, des collabs faites avec Omnipolo. On a beaucoup de recettes. Alors, visiblement, ils se sont bien chauffés pour faire tout ce qui était un peu stout et un petit peu IPA et pale ale. C'est un petit peu le trois types de bière vraiment que je vois revenir le plus souvent. Ils ont des canettes qui sont plutôt sympas visuellement. Ils ont fait des collabs avec plein mal de brasseries aussi, donc avec Prism, avec Dryan Bitter, avec Brewart. D'ailleurs, c'est distribué par Groubir hein, en France, donc les gars qui sont derrière Prism notamment. Voilà, on peut trouver vraiment beaucoup de la ref. Alors, je suis pas sûr que toutes les refs que j'ai là, parce qu'il y en a un sacré paquet sur le site, soient toutes les refs qui sont disponibles actuellement, parce que forcément, ça fait un sacré panel. Mais visiblement, les dernières sont celles qui sont sorties. Et je dois avouer que la Imperial Pastry Stout Macaron et celle au Strudel m'intriguent beaucoup.
Oui, je comprends.
C'est très, très marrant. Donc voilà, et effectivement quand on a eu cette bière, la Golden Age au cinéma, on avait hésité à faire une émission, est-ce qu'on fait une émission sur des grands classiques du cinéma, des Laurel et Hardy, des Metropolis, des Charlie Chaplin, tout ça, ou là l'occasion faisant le larron et la bière commençant déjà à vieillir, mais elle n'a pas bougé en goût, c'est important de le dire, c'est une IPA très bien faite, très bien équilibrée, et on s'est dit, bon, on vous ferait une petite émission sur les Césars, donc, auquel moi je suis plus en guest, je vous avoue, parce que je n'ai vu aucun film à part Oppenheimer. Et
je n'en ai pas vu beaucoup plus.
C'est vrai, voilà. Donc
mais
voilà.
Est-ce que tu n'as pas envie de voir la Baba la barre?
La Baba la barre et le Rêve Animal, j'ai vu la balance pendant que vous parliez justement là. C'est vrai que c'est assez intéressant.
On va en reparler quand on parlera des meilleurs films.
Donc voilà.
Bah, un peu plus.
Bah, je vous laisse terminer du coup, les copains.
Alors, nous étions donc arrivés au César de meilleure actrice. Meilleure actrice était nommée.
Afsia Herzi pour son rôle de Lydia dans Le Ravissement.
Je n'ai pas vu Le Ravissement, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Virginie Efira pour son rôle de Blanche Renard ou de Rose Renard dans L'Amour et les Forêts. Sachant que Virginie Efira avait l'année dernière gagné quelque chose.
Il me semble effectivement... alors c'était peut-être pas au César, mais... Si, en 2023, le César de la meilleure actrice.
Voilà, c'est ça.
Revoir Paris.
Oui, pour vrai.
Ah, c'était pas le truc sur les attentats ?
Si, c'est ça, avec Magimel. Ouais. Non, après Virginie Efira, honnêtement, elle a niveau carrière cinématographique après ses débuts à la télé belge puis française. Honnêtement,
c'est monté d'un cran.
Entre Le Grand Bain qui a eu son petit succès en film français, Victoria qui a été réalisé par Justine Triet. Le hasard, comme par hasard, en 2016. Adieu les cons avec Dupontel. Mmh. Benedetta, réalisé par Verhoeven. Bon, ça va, quoi. Niveau,
oui.
Elle monte quand même d'un cran son jeu d'actrice, dirons-nous.
Il y avait aussi Léa Drucker dans son rôle d'Anne dans l'été dernier.
Il y avait Marion Cotillard pour son rôle de Carole HH dans Little Girl Blue.
Oui, Dan, H-H. C'est le prénom.
Oui, Anne le prénom, pas Anne le copain de Shrek, bien sûr.
Ah là, en fait, Carole HH. C'est...
Le règne animal, du coup. À son rôle.
Je vous parlais tout à l'heure de. Du rôle de Marion Cotillard, donc de Carole HH. C'était une écrivaine, photographe, actrice, et donc vraiment, c'est une biographie filmée, entre guillemets, avec un rôle de...
Biographie.
C'est un biopic, mais vraiment incarné
ouais.
par l'actrice. Il paraît que l'interprétation est assez bluffante, mais je n'ai pas vu le film, donc je ne peux
en parler. J'ai vu dans le synopsis qu'en fait, la réalisatrice est la fille de, du coup, Carole HH,
oui, voilà.
qui est jouée par Marion Cotillard, et qu'elle s'est suicidée. Donc on va voir Marion Cotillard qui meurt.
Voilà.
Ah, voilà. Ouais.
Ou peut-être qu'ils ont coupé ça au montage.
Peut-être qu'ils ont coupé ça au montage. Ce serait une idée, idée qu'elle est bonne.
Comme quoi, Léa fait une mort hors champ.
Comme quoi, tu comprends pourquoi Nolan n'a pas eu le César du meilleur film étranger. Mais bon, c'est pas sûr parce qu'elle n'a pas eu non plus le César de meilleure actrice. Hein, donc, parce que c'est Sandra Hüller.
Sandra.
Pour son rôle de Sandra Voiter dans Anatomie d'une chute, qu'il a eu.
Ensuite, nous avons les meilleurs acteurs.
Tout à fait. Alors, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a Raphaël Quénard pour son rôle de Yannick dans Yannick. Pour l'anecdote, vous aviez Raphaël Quénard qui était donc
Miralles,
qui a eu le César de meilleur
révélation masculine.
Révélation masculine. Voilà, il était nommé là donc pour meilleur acteur pour son rôle dans Yannick. Mais il était aussi dans la rubrique documentaire. Il était en effet dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire. Il a été nommé pour l'acteur de Hugo David et de Raphaël Quénard, mais il ne l'a pas eu non plus. Mais
c'est dommage.
Il était dans trois catégories différentes. Le mec était partout au César. Mais je pense qu'il faut attendre encore quelques années pour qu'il ait un peu plus de présence dans cette cérémonie, je pense.
Ensuite, nous avions Melvin Poupeau dans le rôle de Grégoire Lamoureux. L'amour et les forêts.
Voilà, le frère de Yarol, Poupeau, guitariste hein FFF. Bon, passons. mais c'est vraiment son frère, hein, je ne plaisante pas.
Ah merde,
oui, oui, oui. Benjamin Laverne pour son rôle de l'abbé Pierre dans L'abbé Pierre.
Romain Duris pour son rôle de François Marindaz dans Le règne animal.
Et le gagnant est Arié Vorthalter pour son rôle de Pierre Goldman dans Le procès Goldman. Donc face à Romain Duris, qui n'en a, à ma connaissance, pas jamais eu, je crois, de César. Benjamin Laverne.
Il n'a pas eu des Césars pour la trilogie de l'Auberne espagnole.
Non, je suis pas sûr.
Je vous posais la question.
Je n'en sais rien, mais c'est le seul truc que je pense qu'il aurait pu... Mais bon, voilà. Oui. Et donc, on va passer à meilleure réalisation et meilleur film, qui, spoiler alert, ont le même gagnant. Donc, était nommé pour meilleure réalisation Cédric Kahn pour Le procès Goldman.
Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages.
Thomas Caillé pour Le règne animal.
Catherine Breillat pour L'été dernier.
L'été dernier, je n'ai pas vu.
Nous savons ce que vous avez fait l'été dernier, monsieur.
Je n'ai pas vu L'été dernier de Catherine Breillat. Et Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Je vous dirai qui a gagné, en vous disant qui a gagné le meilleur film, parce que c'est la même personne. était nommé au meilleur film.
Le règne animal de Thomas Caillé.
Voilà, qui était aussi nommé pour la meilleure réalisation. Le procès Goldman de Cédric Kahn, qui lui aussi était nommé pour la meilleure réalisation.
Je verrai toujours vos visages de Jeanne Harry, aussi nommé pour la meilleure réalisation.
Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, qui était... On se rappelle quand même qu'il était aussi nommé et il a eu le...
Il a eu le meilleur acteur, meilleur acteur second rôle, non ? Un truc comme ça, non ?
Il a eu
meilleure révélation.
Ça, c'est Quénard. Mais oui. Le film a eu le meilleur premier film. Il
était nommé. Exact,
Quénard était partout. Il était meilleur premier film et meilleur film.
Mais oui, exact.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui a dû sortir en France cette année. Ouais. Il doit y avoir un truc parce que. Il y avait un peu des doublements, on va dire. Et Anatomie d'une chute de Justine Trier. Produit par Marie-Angèle Chény et David Thion. Donc, je vais quand même parler un peu plus en détail avec toi, Brice, de ces films qui trustent la catégorie meilleur film.
Du coup, nous avions le règne animal.
Alors, de quoi ça parle?
Le règne animal, ça parle d'un monde qui est en proie à une épidémie de mutation. Donc, les humains se transforment petit à petit en animaux anthropomorphes.
En résumé, c'est et si les X-Men étaient nés en Corrèze. Voilà.
Voilà. Donc, ça se passe dans le sud de la France.
Oh, et... Dieu, c'est le professeur Xavier.
Non, j'exagère un peu. Il part d'une grande ville au départ.
Donc ça se passe dans le sud de la France et François y déménage pour se rapprocher de sa femme Lana qui est touchée par cette fameuse mutation et qui est envoyée dans un centre spécialisé
d'orthophonie.
Donc sur place il y a son fils Émile et ils doivent se réinventer dans un monde où il y a des créatures d'un nouveau genre qui apparaissent.
Oui. Voilà. Alors en réalité, enfin le détail du film, c'est que c'est-à-dire que la femme et donc la femme de François et donc la mère d'Émile est touchée par la mutation. Ils l'ont mis en centre et il la déplace dans un centre encore plus spécialisé où elle serait mieux, etc. Dans le sud de la France. Et donc le père et le fils déménagent.
On a des murennes à Nouilly.
Déménagent par là-bas, mais par là-bas on voit aussi tout ce qui est lié un peu au racisme envers ces mutants, entre guillemets, tout ce qui est un peu le fait qu'on ne sait pas trop comment se positionner vis-à-vis de quelqu'un de sa famille qui a ça aussi, et d'autres choses qui arriveront plus tard dans l'histoire, que je ne vais pas spoiler non plus. Honnêtement, effets spéciaux de folie pour un film français.
Je suis des extraits, là.
C'est dans la retenue, mais c'est bien fait quand même. Il y a une certaine violence. Mais elle est elle frappe fort, mais elle fait pas mal. Je sais pas comment dire. Enfin, t'as l'impression, tu fais quand tu vois certains trucs.
Ouais.
Mais visuellement, c'est pas aussi crade que ça en a l'air.
Mais est-ce que du coup, les gens qui se transforment, comme tu dis, c'est un mix entre Manimal et je sais plus quoi là tout à l'heure.
J'ai dit Manimal et
Je ne sais plus. J'ai retenu Manimal moi aussi, mais alors
La mouche et Manimal.
La mouche et Manimal.
Les gens qui se transforment en animal, est-ce qu'ils se transforment totalement en animal et donc genre après ça devient Rod Belair par exemple ?
Non, c'est pas. C'est plutôt ils sont vraiment des hommes plutôt loups-garous on va dire dans le style.
Ouais,
mais
d'accord.
C'est pas que des loups, ça peut être des pieuvres. Enfin, la mutation n'est pas un seul type d'animal. C'est,
ils fusionnent avec entre guillemets.
Ouais, voilà, c'est
des oiseaux, des loups, des ours.
Ouais, voilà, ça ressemble un peu plus aux mutants de Tortue Ninja. Je suis pas sûr de cette comparaison, mais.
Non, ça fait sens.
C'est plutôt entre Manimal et Tortue Ninja, voilà, pour donner la transformation. Enfin, Manimal quand il est en situation intermédiaire et.
Le budget pizza sur le tournage.
Non, film très bien qui avait été présenté en film d'ouverture pour la section Certains Regards au Festival de Cannes. Et qui honnêtement a mérité un peu cette razzia de prix qu'il a fait parce que il en a quand même eu une sacrée quantité. Et le film est sorti en France que le 4 octobre, donc relativement récemment. Oui. Il est toujours en salle un petit peu à droite à gauche.
Okay.
Mais franchement, très, très, très bon film où on retrouve donc Paul Kircher dans le rôle d'Émile, le jeune, Romain Duris dans le rôle du père, Tom Mercier. Fix, c'est un des mutants que va croiser Émile sur sa route. Adèle Exarchopoulos, qui était aussi dans Je verrai toujours au visage, qui l'a joué une gendarme.
Elle est partout, elle.
Là, elle est vraiment partout, en effet. Et non, honnêtement, et c'est le deuxième long métrage du réalisateur Thomas Caillé, qui avait eu déjà une première œuvre primée avec Les Combattants en 2014.
Ok. Donc, ouais.
Deuxième film. Nommé au meilleur film, Brice.
Le procès Goldman. Donc le procès Goldman, ça suit l'histoire vraie du procès de Pierre Goldman, le demi-frère de Jean-Jacques.
C'est ce qui est vrai. Hein, c'est
ce qui est totalement vrai. Ça suit l'histoire de son procès pour lequel il est poursuivi pour le meurtre de deux pharmaciennes lors d'un vol à main armée en décembre 69. À son arrestation, il reconnaît trois braquages, mais il clame son innocence concernant ce double meurtre. Donc le film suit l'histoire de ce procès. Ouais. Je te laisse nous en dire plus.
Alors,
si tu as envie.
Ce film se passe exclusivement, ou quasi, dans le tribunal, c'est vraiment le huis clos sur le procès. Il s'agit du deuxième procès. En fait, il a été condamné. Il a, en prison, il a écrit un bouquin soulignant tous les problèmes qui avaient pu être faits dans l'enquête et dans le montage de son procès. Et à partir de là, il se pourvoit en cassation et il retrouve un deuxième procès aux assises. Et c'est celui-là, ce dernier procès qui est que l'on voit tout le long du film. Et Pierre Goldman, on va dire que c'est un personnage. Dans le film, c'est pour ça que l'acteur a eu le César aussi du meilleur acteur. C'est que le personnage est vraiment extrêmement fort. Il est entouré d'une armada de juristes, de public regardant le procès, notamment des gens très engagés parce que c'était un militant plutôt porté à gauche et qui était un peu un perdu, on va dire, un gars qui faisait des braquages, un gars qui était assez proche des valeurs un peu du style du alors que je dis pas de conneries, ça je suis pas au point non plus là-dessus. Mais plutôt très socialiste, etc. quoi. Voire même communiste, dirons plutôt. Au final, c'est tout cet échange, tout ce montage et cette plaidoirie qui occupe tout le film. Et honnêtement, il est absolument saisissant comme film. Parce qu'en vrai, le personnage est tellement brut de décoffrage que il y a des répliques alors que j'essaye de reprendre, qui ont été reprises vraiment des vraies paroles de Pierre Goldman. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Hop là, je ne suis pas beaucoup aidé. Hein.
Je cherche des trucs sur l'affaire Goldman, moi, de mon côté, en fait, du coup, c'est pour ça.
Non, mais on n'est pas loin.
Il marche seul. Sans témoin, sans personne.
Voilà, citation.
Avec que c'est pas qui résonne.
C'était une chanson qui a été inspirée par le frère ou
pas ? Oh, j'en sais rien du tout.
Par exemple, j'entends contribuer dans la mesure de mes possibilités à dépouiller ce procès de tout artifice qui en voilerait l'essentiel. Je suis innocent parce que je suis innocent. il y a d'autres. Je suis innocent parce que je suis innocent et ça me donne tous les droits. C'est ça le. Je suis innocent et personne ne peut rien y faire, même pas vous. Il n'y a rien à prouver, rien à expliquer. Enfin bref, que des formulations très fortes et très portées. Alors je le vends très mal, dit comme ça, j'en ai conscience. Mais honnêtement, mettez-vous devant si vous aimez un peu les films de procès.
C'est assez passionnant en fait. Je ne connaissais absolument pas l'affaire, sachant que Goldman, de ce que je lisais, j'avais écouté un podcast récemment sur ça d'ailleurs, a jamais vraiment parlé de ce demi-frère. Donc c'est quelque chose vraiment que beaucoup, à mon avis, comme moi, découvrent là, avec ce film notamment. Et a priori, une rumeur court comme quoi la chanson « Puisque tu pars » de Goldman l'inspiration viendrait de ce fameux demi-frère consanguin, on a vu tout à l'heure, du coup.
On a vu consanguin, mais on n'a pas compris pourquoi.
Voilà, mais on n'a pas cherché le détail. Donc,
voilà, c'était gratuit, on a besoin des infos fausses, c'est gratuit.
Ils ont le même père, ils n'ont pas la même mère.
Il était peut-être bête et impulsif, donc c'est deux mots, peut-être c'est un seul mot, on ne sait pas. Donc, voilà.
Mais impulsif, il était forcément. Hein,
Mais toujours dit que Goldman n'a jamais vraiment parlé de son frère, donc voilà. C'est quelque chose que vraiment je ne savais pas.
Voilà, on va passer au film qui a fait une razzia en termes de nomination.
Je verrai toujours vos visages.
Exactement, de Jeanne Herry, qui parle de la justice restaurative.
Alors, la justice restaurative, donc, c'est une mesure qui a été instaurée en France en 2014 et qui permet en fait aux victimes et aux auteurs des actes criminels de se parler en face à face dans des mesures, dans des conditions sécuritaires, etc., etc. Et donc, le film raconte l'histoire de quatre femmes. Qui sont donc du coup sur toute la préparation à ces confrontations.
Il
n'y
a pas quatre femmes, mais aussi il y a quatre actrices principales.
Quatre victimes. Ah oui, il y a un mec, Grégoire, effectivement. Grégoire est un prénom masculin.
Ah voilà.
quatre victimes, donc Sabine, Grégoire et Nawel. Sabine est jouée par Miu Miu, Grégoire est jouée par Gilles Lelouch. Ensuite, nous avons Nawel jouée par Leïla Bekti et Chloé, qui est joué par Adèle Exarchopoulos.
Tout à fait. En fait, le principe du film, c'est une association qui pousse à réaliser ses préparations pour en vue de populariser entre guillemets la justice restaurative en France, et donc est très prudent sur le cadre à mettre pour que quand les victimes rencontrent des auteurs de crimes, des fois l'auteur du propre crime dont ils ont été victimes, ou des fois auteur de braquage, etc., de même situation, on va dire, pour veiller à ce que les échanges se passent bien, que ça ne réveille pas certaines plaies, que ça ne parte pas dans une spirale de violence. On va dire c'est plutôt à vocation psychologique de reconstruction, ouais. D'où la justice restaurative. Et à l'inverse, pour que les auteurs de crimes essayent de comprendre ou comprennent qu'ils ont fait des conneries, pour pousser encore plus la pédagogie dans l'autre sens. Et honnêtement, le film est poignant. Sur plusieurs aspects, que ce soit le cas du personnage de Chloé, incarné par Adèle Exarchopoulos, qui a été victime de viol par son frère en étant enfant, par le rôle de Miu Miu, de Sabine, je crois le prénom du personnage, qui a juste, entre guillemets, subi un vol à l'arraché, mais qui ne s'en remet pas, qui fait de l'agoraphobie, qui reste chez elle, etc. De Gilles Lelouch, qui a subi un homejacking, de Leila Bekti qui était caissière dans un supermarché qui s'est fait braquer, et en face avec des acteurs qui jouent des petites frappes, mais dont on va dire les raisons, même si elles ne sont pas valables, sont un peu compréhensibles, on va dire, dans leur spectre de pensée. Un mec qui dans la cité, on lui dit fais ci, c'est plus facile que d'aller à l'école ou de chercher un boulot ou quoi que ce soit, sachant que peut-être qu'il n'a jamais cherché de boulot, donc ça, là est le paradoxe peut-être. Dans le film, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le film que ça peut être un peu souligné. D'autres personnes qui, quand on parle de la peur de la victime, un braqueur qui dit bah oui, mais nous aussi on a peur quand on va faire un braquage, ça peut mal tourner. Non, mais dans un sens, je le dis en mode un peu drôle, mais dans le film, c'est on sent vraiment que au-delà d'une opposition victime et agresseur, il y a aussi des points communs d'humanité. Alors, sauf sur une, et encore que même dans la partie le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui fait face donc à son frère, qu'on ne verra que très tard dans le film, donc, et qui est joué par un acteur qui a été nommé plein de fois aussi dans le film, dans le César. Je vous laisse deviner lequel. Ou si vous allez sur Wikipédia, vous verrez. Hein. Un certain R.
R.
C'est le prénom R.
Ah, c'est bon. Le prénom, c'est R.
Non, le prénom. Non, la première lettre du prénom, c'est R.
Ah, j'ai envie de dire pas R.
J'en sais rien.
Qui a été nommé, qui a eu meilleure révélation masculine.
Non, c'est vrai. C'est encore lui.
Il a fait Yannick, Je la casse et Je verrai toujours vos visages.
Romain Duris.
Non.
Non, Rémi Quenard.
Raphaël Quenard. Voilà.
Ah ouais.
Donc non, il a eu trois rôles forts et très différents.
Ah ouais. Mais clairement.
Sans parler du court métrage que je n'ai pas vu non plus. Hein. Enfin, ça fait quatre trucs en fait. non, franchement, Je verrai toujours vos visages, assez poignant, assez intéressant, plutôt positif au final. Pour avoir vu ça avec ma compagne, on a déterminé plutôt que le règne animal paraissait plus violent que Je verrai toujours au visage, alors que les thématiques sont quand même assez dures. On est en milieu carcéral, on parle de viol, on parle de choses un peu dures, quoi. En fait, c'est pas aussi violent que le film Règne animal en termes de ressenti.
Okay.
Donc c'est que c'est vraiment tourné avec douceur et assez intelligent, assez positif au final. Donc un bon film, Je verrai toujours au visage, de Jeanne Herry. Chaîne Lacasse, je vais pas en reparler, on en a parlé tout à l'heure. Et celui dont vous entendez parler
depuis quelques mois, depuis
le Festival de Cannes en tout cas, Anatomie d'une chute, de Justine Trier. Alors, je l'ai vu. Bravo, n'est-ce pas ? J'ai vu tous les films du meilleur film.
C'était déjà ta reco il y a la dernière.
Le dernier épisode. Ou l'avant-dernier, je ne sais plus. C'est vraiment un procès et un meurtre mystérieux, parce qu'en réalité, on interprète ce qui s'est passé ou pas, à la fois par le prisme de ce qu'on voit de ce qui s'est passé dans ce chalet et sur le prisme du tribunal et des échanges entre son avocat et l'héroïne. Le fait est que le gamin joue bien, la mère accusée, jouée par Sandra Hüller, qui a eu le César, joue extrêmement bien. Et tout le film joue à la fois sur le fait qu'on ne sait pas ce qui a été fait ou pas fait, et jusqu'à la fin, on ne sera réellement sûr de rien,
ouais.
Et sur le fait que ce procès, ce drame, cristallise des choses qui sont liées plutôt à l'usure d'un couple. Donc c'est très parlant sur le côté social qui peut arriver à n'importe qui, quoi, entre guillemets. L'usure d'un couple qui se déchire parce que l'un prend le pas sur l'autre ou l'un a plus de succès que l'autre, etc. Et tout ça mixé fait que le scénario global, la démarche globale est très très intelligente et bien faite. Honnêtement, alors, spoiler alerte, c'est Anatomie d'une chute qui a eu et le meilleur film et la meilleure réalisation. Meilleure réalisation pour Justine Triet et meilleur film pour Anatomie d'une chute. Personnellement, c'est pas celui que j'aurais mis à cette place-là, bien que je lui trouve toutes les qualités du monde, à ce film.
Okay.
J'aurais plus vu Le règne animal.
Ouais.
Le règne animal a une proposition visuelle plus forte, plus originale. Un des acteurs, notamment le jeune qui joue extrêmement bien la souffrance vis-à-vis de la mutation, etc., est plus émouvant. Je trouve le film plus émouvant qu'Anatomie d'une chute.
D'accord.
On va dire. À choisir, j'aurais encore plus poussé Règne animal, alors qu'il a quand même un peu surfé sur la cérémonie en ayant lui aussi 5 victoires, 5 Césars, tandis qu'Anatomie d'une chute en a eu 6. Donc c'est vraiment quasi égalité entre les deux films. Mais j'aurais inversé, j'aurais mis le 6e pour le Règne animal, le 5e et 5 pour Anatomie d'une chute comme récompense. Voilà, okay. C'était les Césars 2024.
Bah écoute,
je ne parlerai pas de Paul Mirabel.
Non.
écoute, tu as souffert.
Alors honnêtement, il y avait des vannes qui m'ont fait rire.
Ah. Ouais.
Mais honnêtement, ça manquait un peu. Ça n'apportait pas beaucoup de rythme, dirons-nous.
Oui, ouais. Généralement les Césars, c'est pas très punchy, j'avoue.
Alors honnêtement, j'avais peur qu'elles soient beaucoup plus calmes. Mais surtout quand tu vois arriver Danny Boone pour faire pour remettre un prix ou comment il s'appelle. Benoît Magimel, machin, bon. J'aurais préféré un peu plus de Jean-Pascal Zadi ou même le César d'honneur qui a remis Jamel à...
Nolan
à, non, c'est...
Agnès Jaoui.
Agnès Jaoui, ouais. C'est Marion Cotillard qui a remis à Nolan. Okay.
Elle a dit pardon.
Voilà, elle veut bien ça. Honnêtement, rien que son intervention a été beaucoup plus punchy que tout le reste, qu'on va dire.
Ouais.
Il y a eu un beau discours lié à l'expérience qu'a pu avoir, l'expérience malheureuse de Judith Godrèche, qui a porté plainte pour agression sexuelle contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon, et qui a parlé de l'omerta, de l'écrasement de la parole face aux violences sexuelles dans le cinéma, etc. Donc il y a eu un moment un peu MeToo, un peu dur dans le lot, mais... Au global, la cérémonie, elle est passée un peu assez crème, on va dire. Au global.
Le mec, c'est un jeune, quoi.
Voilà. Et honnêtement, les films, les ai en vue avant. Je trouvais plus ou moins pertinent les remarques faites, etc.
Ouais, ouais.
À choisir.
Forcément, c'est plus intéressant quand tu sais de quoi ouais. Ça. Enfin, quels sont les enjeux, quoi.
Oui, alors sachant que voir une cérémonie comme celle-là, tu sais aussi te dire, ça permet de mettre de la visibilité sur certains films pour que on puisse marquer sur une ressortie ou sur la boîte du DVD ou sur le service de streaming récompensé aux Oscars, aux Césars, pardon.
Tu me demandais, c'est tout le truc. Parce que moi, je suis pas à la base, mais sans le critiquer, tu vois, je suis pas un grand fan de films français. Pour la simple et bonne raison où moi je suis plus quelqu'un qui, quand je regarde un film, effectivement j'ai envie de m'évader et pas être ramené en fait à des problèmes sociétaux ou de la vie quotidienne, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai très vite assimilé que les films français c'était Bon, bah, ça te raconte en gros le quotidien d'une personne qui pourrait être ton voisin, ta sœur, ton frère. Tu vois. C'est vrai que moi, je me suis pas mal dérouté de ça. Et les comédies, j'en parle même pas parce qu'on on en a rigolé dans un épisode précédent. C'est toujours pareil. Hein, sur le genre des affiches, c'est Polydécriture Jeune, Fond Bleu, Maison de Retraite, Croisière, ce truc, mes couilles. Enfin, c'est toujours des trucs à la con qui sont rarement drôles, en fait. Je connais pas vraiment de comédie récente, en tout cas, où je peux dire que vraiment, tiens, j'ai eu envie de les voir. Et là, tu vois, par exemple, bah, en écoutant...
Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu.
Ouais. Tu vois, en écoutant tous les synopsis que, de films et tout ça, alors certes, il y a des trucs où je pense que personnellement, j'y serais pas allé. Parce que les trucs de drames sociétaux, tout ça, peut-être que ça m'aurait pas attiré, mais tu vois, Le règne animal, Anatomie d'une chute, tu vois, par exemple... Ouais, ça me botte bien, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce que, tu vois, moi, je suis. Bon, c'est vrai que j'ai plus trop le temps ces derniers temps, c'est vrai, d'aller au ciné. Mais en France, en étant quelqu'un qui va avec plaisir regarder un blockbuster, j'en parlerai dans le prochain épisode. J'ai vu Argyle, tu vois, par exemple, qui est pas non plus un truc de fou, mais ça m'amuse, je dirais. Oppenheimer, oui, c'est un très beau film qu'on peut aisément pour beaucoup qualifier de chef-d'œuvre, on va dire, certains. Mais je trouve que, tu vois. Le problème du cinéma français, c'est, tu vois, là, tu vois, tu nous cites qu'il y a beaucoup de bons films, parce qu'ils ont été nominés au César, c'est pas Joel Clodo hein, qui est nominé au César non plus, mais on fait pas assez, effectivement, en France, de promotion, je trouve, du cinéma français. Tu trouves du blockbuster américain à foison, tu trouves de la comédie avec Clavier et Danny Boone à foison, et beaucoup moins ce genre de film. Alors, ce que je peux comprendre, parce que ça attire pas non plus un public, le grand public en soi, tu vois. Mais je trouve que c'est dommage, en fait, tu vois, parce que moi, la plupart de ces films-là, bah, j'en ai pas entendu parler. Même si je suis un petit peu l'actualité ciné, malgré tout, tu vois. Bah, en fait, on va me parler du prochain Spider-Man ou de la prochaine comédie de l'autre con. Et tu vois, Le règne animal, je l'ai pas vu passer, ou très peu. J'ai vu une affiche. J'ai pas été plus loin.
Pourtant, il est en salle depuis octobre.
Et ouais, mais non, mais j'ai pas été plus loin parce que l'affiche m'a pas forcément non plus parlé. Mais j'avais pas eu un truc qui venait sur même des youtubeurs, des influenceurs, parce qu'il faut bien qu'ils servent à quelque chose, par exemple, tu vois. Où on te dit, bah, tiens, Le règne animal, ça raconte ça et c'est bien fait, les épisodes sont bien faits, c'est bien tourné, c'est bien joué, tu vois. Et ben non, en fait, alors, tu vois.
Après, c'est, sûr
c'est un peu dommage.
Il y a forcément moins de spectaculaires. Honnêtement, le seul film qui a voulu jouer du spectaculaire ces derniers temps, c'est Les Trois Mousquetaires. Vouloir jouer un blockbuster à la française.
Et qui n'est pas très bien, paraît-il.
Qui est...
Oh, il est bien, franchement.
Ouais, ouais, j'ai eu des mauvais échos, je ne l'ai pas vu.
On va dire qu'il est suffisant.
Ouais.
Il n'a pas eu un succès suffisant, par contre, parce qu'il a, ouais. il est rentré dans ses frais, je crois. Mais,
c'est une trilogie, je crois.
De base, au départ, c'était que deux films. Au final, c'est peut-être une trilogie, mais pour l'instant, ils n'ont pas tourné de trois. Donc non, voilà, pour le côté spectaculaire, c'est ça. Après, ça tient beaucoup au scénario, ou comment on appelle ça, ou on va dire à la sensibilité que l'on a, parce qu'en réalité, tu n'auras jamais du blockbuster, enfin du blockbuster, une majorité de blockbusters à la française. Tu auras forcément des films d'enquête, des films un peu de drames sociaux aussi, des films sur des sujets ou des biopics un peu comme les Oscars d'ailleurs.
Ah oui,
aux Oscars, au meilleur film, t'as pas Transformers. C'est normal.
Oui.
mais donc on peut pas comparer réellement ça. Et c'est sûr que les budgets sont pas les mêmes.
Ah ouais,
le mode de production n'est pas le même. Mmh. Par contre, en termes de variété et d'idées, il y a des choses à les glaner. Alors, honnêtement, c'est la première année où je fais l'exercice de les voir avant.
Ouais.
Et deuxièmement, je remontais un peu les années. Je suis remonté sur 7-8 ans, là. Il y a rarement, depuis, je regarde un peu tous les nommés meilleurs films depuis ces quelques années. D'une part, j'ai rarement vu tous les films de meilleurs films. Et voire même, il y a des fois où j'en ai pas vu un seul. Même depuis. Je pense aussi que l'offre de cette année a été plutôt bonne en termes de variété.
Ouais.
Alors, et à la sélection et dans les sorties initialement.
Bah oui.
On retrouve du drame social entre Chien de la casse et Je verrai toujours au visage.
Mm-mm.
On retrouve un film d'époque et de procès avec Le procès Goldman. Un film un peu fantastique avec Le règne animal et un polar un peu sombre et tribunal à la fois avec Anatomie d'une chute. C'est quand même une proposition qui parle un peu plus normalement Ah, quand tu vois des films US ou aux Britanniques.
Bah, c'est ce que je disais, c'est que, tu vois, c'est surtout d'un point de vue. Alors là, je parle vraiment dans le côté marketing, hein, pas le côté cinématographique. Mais c'est vrai que quand tu vois les films qui sont nominés aux Oscars, par exemple, tu vois. Ouais. Peut-être on fera un épisode sur ça plus tard, mais.
Qui sait.
Mais les films qui sont nominés aux Oscars, on va dire, quand tu regardes le palmarès, souvent, que tu sois cinéphile ou non, il y a toujours au moins un ou deux films qui te parlent ou que tu as vu. Tu vois, que ce soit dans les effets spéciaux, dans le scénario, dans le truc. Et c'est vrai que des fois,
on peut faire le test. Oscar du meilleur film, tu me dis ce que tu as vu ou que tu aurais eu envie de voir, on va dire, on va le faire simple.
Ouais.
American Fiction.
Ça me dit rien, tu vois.
Anatomie d'une chute.
C'est lui, français, lui, j'ai envie de voir. Voilà.
Barbie.
Que j'ai pas vu, mais je voulais voir. J'ai juste pas eu le temps. Mais
ouais. Winter Break. The Holdovers en VO.
Non, lui, il me dit rien.
Killers of the Flower Moon.
Lui, je voulais le voir aussi.
Maestro.
Lui, ça me parle, mais
sur Netflix avec c'est un film de comment il s'appelle, celui qui joue dans The Hangover et dans Limitless.
Bradley Cooper.
Bradley Cooper.
Oui, celui-là j'ai entendu parler, il m'intéressait.
Oppenheimer,
que j'ai vu du coup lui.
Past Lives.
Non.
Pauvre créature.
Non plus.
La zone d'intérêt, Zone of Interest.
Non, ça j'ai pas entendu parler.
Est-ce que c'est vraiment... Enfin, si tu comptes, alors il y a deux fois plus de films, il y a 10 films là.
Oui, il y a plus.
Donc, si réduisait la sélection à 5-6 films, ben, peut-être que Barbie sauterait.
Ah oui, oui.
Peut-être que...
Mais tu vois, si j'avais eu le temps de les voir, je sais qu'il y en aurait eu quelques-uns que j'aurais déjà vu. C'est juste que des fois, j'ai cette impression, par exemple, tu vois, pour les Césars, que c'est limite des films qui sont... alors, je dis ça sans que je l'affirmer, attention, hein. Que ce sont des films qui sont limite entre guillemets réservés à une élite, mais en même temps tu peux pas donner un César à une comédie potage de clavier, tu vois. Mais
à part si elle était vraiment bien faite, un jour ça arrivera peut-être,
bien sûr. Mais tu vois, tu dis, mais c'est
si
pas des films
ni raciste, ni qu'elle soit drôle, ni pas raciste, pas fait pour les vieux de droite, ben peut-être que ça devrait marcher.
Mais tu peux, je suis sûr que tu peux trouver des trucs qui peuvent convenir à tout le monde. Mais c'est juste que des fois tu as cette impression où ça va être très entre guillemets élitiste, où ça va être réservé à un public averti, cinéphile, qui va regarder vraiment un type de film qui est malheureusement aussi, et c'est le boulot aussi des salles de ciné de faire ça, pas forcément très, très bien promu auprès des cinémas. Parce que souvent, et moi je parle quand je dis ça, tu vois, ça va dire, ça va faire un gros mot, mais moi je me qualifie, moi je suis un pégu dans le cinéma, tu vois, moi je vais dans un pâté, tu vois, je vais pas dans mon cinéma de quartier ou autre, tu vois, parce que bah, c'est facile pour me déplacer ou autre. C'est vrai que ces cinémas-là, bon, bah, effectivement, mais après, c'est le budget qui est comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire, t'as des gros écrans avec des explosions, et puis tu vas avoir le truc le plus.
Moi, la plupart de ces films-là, je les ai vus en streaming.
Oui, aussi.
Enfin, je suis allé au ciné pour certains, mais il y en a certains que j'ai vus en streaming.
J'ai découvert des films, tu vois, par exemple, tu parles de ça, j'ai découvert des films plus ancrés dans le côté César, tu vois, dans le style de film et César, mais grâce au streaming. Parce que quand tu cherches un truc à regarder sur ta plateforme de streaming auquel tu es abonné, ou les plateformes, bah des fois, en fait, comme ça va t'afficher sur ton écran, la balance, le ciel-là, tu fais « Ah tiens, pourquoi pas ?» Et tu le regardes, et je le regarde. Alors qu'à l'inverse, avant qu'il y ait justement les plateformes de streaming, moi, il y a beaucoup de films que j'ai découverts et qui sont pas des films, des blockbusters, hein, des trucs des fois tout bêtes ou autre, même étrangers, que j'ai pris plaisir à découvrir. Tu vois, je veux un exemple, une fois, j'avais vu, je ne sais plus sur quelle plateforme, un film d'enquête qui se passait en Islande sur un ferry. C'est un huis clos qui se passait sur un ferry. Alors, j'ai plus un des acteurs, je l'avais reconnu parce qu'il jouait dans Walter Mitty, c'était le pilote d'hélicoptère. Et j'ai dit, tiens, le mec, je l'ai reconnu. Et j'ai regardé le film et j'ai trouvé ça génial, en fait, tu vois. Mais c'est les plateformes de streaming qui m'ont permis de découvrir d'autres formats de cinéma, d'autres styles de films. Que je trouve que malheureusement, les cinémas, en général, les gros cinémas, en fait, vont plutôt, et ce qui est logique aussi, vont faire la part belle à des trucs beaucoup plus costauds. Et c'est vrai que, bah, sur le coup, quand Scorsese il va critiquer les plateformes de streaming, même s'il en a, il a fait un film dessus, là, Richman, bah, j'ai envie de dire, bah, ouais, mais les plateformes de streaming, l'air de rien, ça permet aussi, comme l'époque des téléchargements avec la Napster et tout, bah, de créer aussi un...
Ouais,
bibliothèque musicale plus élevée chez les gens.
Hein.
Voilà, tu vois, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai plus de culture cinématographique grâce au streaming. Au début, le téléchargement, on a le streaming. Comme j'ai eu le plus de culture musicale grâce à Napster et après aujourd'hui avec Spotify que je paye, tu vois. Donc,
après, y a pour se faire une culture, quelle qu'elle soit, musique, ciné, série, bouquin, tous les moyens sont bons en vrai.
Oui, c'est clair.
En vrai, enfin. Tant que.
Si tu as la volonté de le faire, faut. Voilà. Voilà. Mais voilà. Le problème, c'est que les gens, souvent, n'ont pas le temps ou la volonté de le faire. Et
ouais, ou
faut pas les happer, en fait. Voilà. C'est attirer le public, c'est le problème. Tu vois.
Il faut arriver à trouver un média, quel qu'il soit, même si c'est un média social, hein, c'est pas, qui te permette de t'ouvrir vers des sujets. À l'inverse, toujours regarder le même style de film, toujours lire le même style de bouquin, toujours écouter exactement le même style de musique. Alors, je dis pas que c'est pas ton style de musique, ton style de film préféré, ton style de machin. Ça, ok, c'est encore eux qu'on va voir des films qui vont nous faire chier, quoi. Oui. Mais enfin, qu'on vise pas ce style-là en particulier. Mais de temps en temps, prendre un truc qui est un peu à la marge de ce qu'on fait d'habitude, bah, ça te permet de ou de mieux apprécier ce que tu fais d'habitude, ou au contraire, dire attends, mais c'est pas un mauvais truc en fait. En vrai, je pourrais un peu élargir le cercle par là.
Moi, avant de conclure, je te donne un exemple.
Et c'est pareil pour les bières.
Oui, mais, mais
j'ai commencé les bières avec les bières industrielles, ben, comme tout le monde ici. Hein, voilà. Après, on commence à tester de la craft, on commence à tester de la craft un peu similaire à la bière industrielle. Puis après, on va chercher un style un peu différent. Puis après, on trouve un peu son style, que ce soit l'IPA, que ce soit la Stout, que ce soit machin.
Ouais. Et des fois, tu dis.
Et après, comme y a dans chacun de ces styles, il y a des variantes. Ouais. Donc, tu vas un peu voir les variantes de ces styles. Et après, bah, tu dis, ce style-là, ça fait longtemps que je n'ai pas testé, je vais retester.
Ouais.
Et tu peux aimer bien cette saveur-là, cette IPA-là. Et par contre, bah, finalement, la Stout, non, j'aime toujours pas ça. Quoi. Enfin, et pareil, je pense que c'est pareil dans l'art, en fait.
Oui,
bouffe, le truc comme ça. C'est...
Mais le parler avec la bière, il est pas con, parce que regarde, tout bêtement, j'ai un bar craft qui est près du port et autour de moi j'ai que des Irish pub industriels, donc des grosses machines de guerre, hein, par rapport à moi. Moi je sais que je suis obligé de faire des pieds et des mains pour attirer un public. Il faut que je fasse de l'événement, du tap takeover, du soir à thème et tout ça, chose que pour les citer, mais les gens qui nous écoutent sont pas forcément de Marseille, mais des Irish pubs tels que le Shamrock, le Temple Bar et tous ces bars là qui sont très prisés par les Marseillais par exemple, ont pas forcément besoin de se faire chier à faire des soirées à thème, à inviter des brasseries, à faire des trucs. Ils vont faire peut-être une soirée blind test de temps en temps,
un blind test
et un karaoké,
un concert,
voilà, et ça marche. Moi je suis obligé,
une soirée
des
80,
semaines,
voilà
moi toutes les semaines quasiment je suis obligé de réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour attirer un public qui du coup se fidélise parce qu'ils sont habitués à des trucs classiques comme tu dis, et puis au bout d'un moment ils digressent. Et le dernier exemple, j'ai eu avant qu'on conclue, ça fait une heure et quart maintenant, on a encore un épisode à enregistrer, quand tu en parlais de films justement. Moi j'ai un exemple de ma compagne qui est plutôt quelqu'un qui a du mal, si tu veux, à sortir des sentiers battus. Ma compagne c'est quelqu'un qui va regarder 50 fois Big Bang Theory. Et il va falloir faire des pieds et des mains pour lui faire découvrir un truc, tu vois. Je donne l'exemple tout bête. Elle a découvert Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit maintenant. Ça fait et c'est une fan absolue maintenant. Elle a commencé à lire les bouquins et tout.
Alors je te rassure, il y a plein de films classiques, de livres classiques ou de musique, enfin pas classique dans le sens musique classique, plein de choses que je ne connais pas, que je ne connaîtrai sans doute jamais jusqu'à mon lit de mort. Et certains gens en connaissent, d'autres non. En ciné, on parlait tout à l'heure de Tango et Cash. Ça a été multi-rediffusé à la télé. Il est sorti il y a 40 ans, bientôt, ou plus à peu près. J'ai eu à peu près 40 fois 365 soirées pour me le mater. Enfin, peut-être pas, j'étais un peu jeune à l'époque quand même.
Tu as été jeune une fois.
Mais grosso modo, j'ai eu plein d'occasions de le voir. Je ne l'ai pas vu. J'ai fait d'autres choses dans ma vie, comme tout le monde. On bosse, on boit des coups.
Parce que elle a découvert Le Seigneur des Anneaux, donc là, et elle me disait un truc très juste. Elle me disait, c'est vrai que elle, ce qu'elle n'aime pas, c'est, sauf si vraiment elle a le sentiment d'être sûre d'elle, il y a des gens comme ça, de se dire, putain, si je vais au ciné, donc je prends le bus, le métro, la voiture, je me déplace, je paye mes popcorn, ma boisson, ma place, etc., d'aller voir le film et de ressortir déçu en me disant, j'ai perdu 2 heures de mon temps et de la thune. Et donc, du coup, le fait d'avoir du streaming aujourd'hui, elle me dit, l'avantage, c'est que j'arrive à sortir des sentiers battus, elle qui est vraiment quelqu'un qui faut son boudou, quoi, son truc qu'elle connaît par cœur, quoi. De temps en temps, de tester un truc, et puis elle va tester pendant 15, 20, 30 minutes. Si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Mais elle a perdu que 30 minutes, mais ça lui a rien coûté de plus que son abonnement. Elle me dit, tu vois, au moins, j'ai pas perdu ma demi-journée.
En soi,
c'est une autre vision du truc, tu vois.
Sur la notion du prix du cinéma, j'ai toujours un peu du problème avec ça, parce que je me dis que quand je bois... Allez, on va prendre l'analogie de la bière.
Ouais.
Quand je bois une bière qui va coûter... Allez, une bière artisanale va coûter entre... En canette comme ça, entre 6 et 10 euros.
C'est ça.
Entre 6 et 10 euros.
Ouais, bien sûr.
Tu prends une place avec une carte de ciné avec X place ou un abonnement ciné, on va dire l'un ou l'autre. Tu passes 2 heures pour aller. Une carte d'abonnement ciné, ça te revient à la place à 8 euros. Je crois que le prix moyen d'ailleurs du ticket en France, c'est 8 euros. Hein.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Donc 8 euros, c'est le prix d'une canne de bière. Canne de bière, je ne mets pas 2 heures pour la boire.
Non, non.
Donc je peux perdre du temps, mais l'argent, je ne perds pas en vrai.
Non, mais je donne le sentiment que
j'ai.
Oui,
non, mais je comprends. Non, mais chacun va l'interpréter différemment, voilà. Le tourner différemment. Pareil, c'est un autre problème quand tu veux aller au cinéma en famille.
Ouais.
Quand tu veux voir certains films, déjà, il faut ou pouvoir faire garder les gosses, si ce n'est pas de leur âge, ou si c'est avec les gosses, ça devient une sortie. Et comme c'est compliqué, ça devient la sortie annuelle, donc on part à 4, on doit faire des kilomètres, on doit payer les pop-corn pour tout le monde, parce que c'est devenu la sortie, donc on est obligé de monter le coût de l'expérience. En vrai, si tu veux voir un film, tu peux aller le voir à côté de chez toi, en streaming, au ciné, tu choisis comme tu veux.
Ah oui, après voilà, c'est tout un autre débat, mais il faut aussi quand même avouer que je trouve, au début les gens pensaient l'inverse, moi je trouve finalement que c'est pas déplaisant de voir que des films streamés du coup sont candidats dans des cérémonies comme ça, parce que ben, malheureusement au final quand tu vois le prix des places souvent
il y en a peu des films streaming
mais il y en a quand même un peu tu vois, mais quand tu vois le prix malheureusement des places aujourd'hui, comme plein d'autres produits culturels ou pour bouffer hein, ben effectivement t'as du mal à te dire est-ce que je prends le pari d'investir entre guillemets ma seule sortie pour des gens qui n'ont vraiment pas de thunes, d'investir ma seule ou une de mes deux seules sorties de du mois dans un truc où je ne suis pas sûr de moi. Donc, du coup, peut-être des gens aussi vont déserter des fois les ciné pour faire d'autres trucs.
Je comprends le choix. Non, mais attention, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'aurais toujours l'impression que je préfère payer, peut-être parce que j'ai les moyens de le faire, attention, payer. 10 euros de place de ciné ou 20 euros sur le mois plus 15-20 euros d'un service de streaming plutôt que d'avoir que l'abonnement de streaming, et j'enlève le piratage de l'équation, que l'abonnement de streaming, un seul abonnement parce que si je veux pas dépenser plus, et c'est comme si, dans ma tête, si je fais l'analogie avec la bouffe, c'est comme si j'avais un abonnement à McDo, je ne peux manger au restaurant qu'à McDo. Je peux goûter tous les burgers, ils sont différents, il y a X burgers sur la carte, je peux tout faire, je peux les mettre dans l'ordre, mais par contre je peux manger que du McDo. Ça m'emmerde un peu. C'est un peu différent.
Ouais,
de variété sur les. Et encore que les films Netflix originaux se ressemblent pas mal, les séries
se ressemblent
pas mal. Et les films non originaux, honnêtement, ils bougent pas beaucoup.
Après, c'est notre débat. Tu vois, les plateformes de streaming, maintenant, elles se rachètent entre elles. Enfin, après,
je préfère largement le ciné au plateforme streaming, hein, franchement.
Moi, j'aime bien le ciné aussi. J'y vais dès que je peux. Tu vois,
après,
moi,
je crache pas sur le streaming. Le streaming.
Moi, je trouvais ça bien à l'époque où il y avait que Netflix. Parce que t'avais ton abonnement de streaming avec que Netflix et tout qui arrivait dessus à un moment donné. Donc, les films que tu voulais pas aller voir au cinéma parce que tu étais pas sûr, tu pouvais les voir sur Netflix.
Voilà.
Maintenant, t'y a 12 000 plateformes. Donc, t'es pas sûr de le voir. Il faut avoir la plateforme sur laquelle ça va être diffusé. Sinon, alors attendre que ce soit diffusé sur la plateforme que tu as.
Disons qu'il y en a un peu.
Au final,
trop,
tu te prends un abonnement à 200 boules à l'année au ciné et tu vas deux fois par semaine et tu as 5 ou 6 euros la place.
Ouais, non, mais c'est vrai, je suis pas allé au point de l'abonnement, je disais juste même l'occasionnel parce que
Des
gens boulimiques de ciné ou qui ont le temps, c'est pas tout le monde. Entre ceux qui bossent. Si on parle des brasseurs qui peuvent parfois nous écouter,
se caler devant la télé jusqu'à minuit ou aller au ciné, je préfère aller au ciné. Hein.
Ah, tout à fait. Mais
au moins, tu vois un truc original.
Aller au ciné, ça te prend une demi-heure avant pour y aller, une demi-heure après pour revenir aussi.
Ça peut. À Marseille, oui, parce qu'à Marseille, on est très mal loti.
Oui, mais imagine dans les zones plus rurales.
Disons que c'est un loisir qui peut. Bah alors, malgré tout, quand tu as peu de moyens, qui peut être plus coûteux que rester chez toi devant
tout
une
à fait.
Plateforme.
Tout à fait.
Et l'avantage, c'est vrai que on arrive à créer une accessibilité pour des gens qui ont peu de moyens de pouvoir voir des
bien
trucs.
Sûr.
Et c'est vrai que moi, je trouve que l'avantage des plateformes de streaming aussi, c'est que ça te permet, malgré tout, de te dire tiens, je peux tester un truc que j'ai jamais vu, un style que j'ai jamais vu, comme les bières, en fait, tu vois. De tester des trucs que je ne connais pas parce que j'ai ce catalogue devant moi qui me permet.
Pour moi, le service de streaming, c'est un peu le festival de bière. Tu vas à un festival, tu peux goûter un peu de tout d'un coup. Et après tu rentres chez toi, tu as acheté quelques cannes que tu vas tester, que tu vas garder. Après tu as ton QG. Ton QG, ça sera ton QG.
Ah oui. Bien sûr, après tu vas garder tes trucs, tu vois. Mais moi je trouve c'est positif, même moi tu vois, j'ai pas le temps forcément dans ces derniers temps d'aller au ciné.
Ah bon, moi non plus hein.
Donc
j'ai raté certains films.
Moi j'avoue que du coup de savoir que tel film est sur une telle plateforme ou autre, bon, bah, ça m'arrange, tu vois, parce qu'au moins, je peux le regarder un peu ou chez moi, ou en bossant, ou en faisant un truc. C'est l'avantage que j'ai avec ça.
Bah, après, pour rattraper les films des Oscars, je suis content de, qu'il y ait Maestro qui est sur Netflix, que, à mon avis, je peux trouver en VOD d'autres
tellement c'est jeu. Ou avec un VPN, tu peux te faire des trucs.
Voilà.
Et, mais après, effectivement, comme dit Brice, quand il y a une multitude maintenant de plateformes de streaming qui commencent à émerger de partout, quand tu sais que tu as l'habitude, bah, tu vois, moi, on en discute la dernière fois, Barry, une série que je n'ai pas eu le temps de continuer, que je voulais reprendre, que j'avais sur OCS, et j'avais pris un abonnement OCS à l'époque parce que il y avait Sex and the City, et qui était une série préférée de ma compagne. Je retombe sur OCS, donc je paye depuis quelques mois déjà encore. Bon, ben, il n'y a plus Barry, il n'y a plus Sex and the City, il n'y a plus rien qui m'intéresse. J'ai jarté OCS parce que maintenant c'est sur le Pass Warner qui est sur Amazon. Donc maintenant, tu as le truc, le Pass Warner, le Paramount, le Disney, plus le truc. Ils augmentent tous les tarifs en même temps. Ouais, bon, au bout d'un moment, je t'avoue, je préfère malgré tout aller au ciné parce que bah, à claquer 15 balles, bah, je me fais une après-midi au ciné, puis j'ai passé un bon moment, puis je suis sorti, puis ça m'a fait du bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu le
ouais, délire. Ouais, si... moi j'avais fait le calcul, si tu prends Netflix, plus Apple TV, plus Prime, plus Disney+, plus machin, t'as plus de 400 balles à l'année, quoi.
Ouais.
Donc tu t'as un pass ciné, tu vas aller voir quand ils sortent au ciné.
Oui, et puis bah, aussi.
T'as moins de catch-up, enfin de rattrapage.
Ouais,
oui.
Voilà. Il y a le côté série télé que tu peux pas faire aussi.
Voilà,
voilà.
Le série télé.
C'est... Mais effectivement.
Bah, après, Brice, on regarde même pas de film. Donc, c'est un faux débat.
Non, mais après, le cumul fait que ça te fait quand même, au bout d'un moment, ça te fait un sacré budget. Ah ouais, quoi,
et puis,
c'est là où, tu vois, ils sont tous en disant bah, moi, je récupère mon catalogue, même s'il est là. Mais les gens, ils font des choix au bout d'un moment. Donc,
ouais,
bah...
bon, encore que même ça, ils sont en train de... même les plateformes sont un peu en train de revenir. Parce qu'en réalité, ça va se reconcentrer sur 2-3 plateformes. Comme ce qu'on avait avant. On avait Canal, OCS et Netflix. Hein.
Ah oui, oui.
Il y a toujours eu OCS, il y a toujours eu Canal. Il y a eu Netflix en plus.
Ouais, ouais.
Là, ça va. Il y a eu les Américains de Paramount, Max qui vient ou qui vient pas.
Surprise.
Donc, et Prime, ouais. Mais c'est pas plus que ça, quoi.
Bref, je vous propose d'en rester là, les copains.
Voilà, on a fait un petit épisode spécial ciné.
Très bien.
J'espère que ça vous a plu.
On va. Hop, je vais déclencher le générique. Et bien, nous, on va vous laisser sur cet épisode. Comme d'habitude, vous en trouvez sur les réseaux sociaux, bilantin.com, lesbiennarratifs.com, lesartsnarratifs.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour la majorité.
X. On appelle ça X maintenant.
X.com.
Il y a un peu de LinkedIn. Le jeu vous emmerde parce que ce moment-là.
Il y a un peu de LinkedIn, il y a un peu de Thread, de Mastodon, de Blue Sky, vous le verrez. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. C'est un épisode intermédiaire. Donc,
on sait pas quand est-ce qu'on le diffuse.
Voilà, donc il sera diffusé entre le 32 et le 33e épisode, en gros.
Ou entre le 31 et le 32, on ne sait pas.
On ne sait pas trop. On va s'atteler à enregistrer un autre épisode maintenant.
Voilà, on est productif cette année.
On est productif.
On a pris des bonnes résolutions.
On vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée,
une bonne nuit. Est-ce qu'il y a des gens qui s'endorment en nous écoutant de vous?
Je ne sais pas.
Dans le creux de vos oreilles.
J'irai voir vos visages.
Je verrai toujours vos visages.
J'irai, fais-moi teur. Bref, n'oubliez pas d'aller au ciné, n'oubliez pas de regarder des séries, de lire et puis de boire avec modération des bonnes bières indépendantes artisanales. Et à bientôt.
Vous pouvez faire tout en même temps si vous voulez.
Oui, aussi, c'est pas interdit. Salut.
Tchou.
C'était très mauvais.